Voilà. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à cette heure tardive. Je sais bien que les trains sont à l'heure, mais moi je ne suis pas à l'heure. Mais nous sommes dans la science-fiction, donc le temps se distord à volonté, et selon la volonté de celui qui parle, ou de celui qui écoute, bien entendu.
Qui aura le verre qui est sa machine à remonter le temps.
Voilà, donc j'essaye de ne pas dépasser les 15 à 20 minutes, et pour cela, je vais soit vous me le rappeler à l'ordre, soit je regarderai de temps en temps c'est pas une montre. Et donc, en fait, je suis une pièce rapportée dans le programme initial, et on m'a collé cet horaire un peu impraticable, parce qu'il n'y en avait pas d'autres, paraît-il, disponibles depuis 4 jours, ce dont je remercie les organisateurs chaleureusement. Et donc, effectivement, il y a 8 jours, je ne pensais même pas être parmi vous à vous exposer le sujet de mon exposé, qui est une découverte tout à fait récente, c'est à savoir précisément une question que personne ne s'est peut-être jamais posée ici. Nous parlons de science-fiction française en 2016, mais jusqu'où dans le temps rétrospectif cette science-fiction française remonte? À quel moment est-ce qu'on peut dater vraiment avec une précision scientifique et tout à fait précise, est-ce que l'on peut attribuer une date de naissance à l'objet qui nous a réunis depuis 4 jours? Je pense que personne ne s'est jamais posé cette question ici, et c'est bien dommage, parce que justement je vais vous apporter une réponse à une question qui ne se pose pas. Vous avez une réponse. Il y aura peut-être d'autres réponses. Oui, mais je vais apporter une autre réponse, puisque les réponses sont aussi parallèles et multiples que les univers de la science-fiction. Donc, dans un autre univers éventuel, une autre réponse est valable. Mais dans l'univers précis et tangible qui est le nôtre ici, il n'y a qu'une seule réponse valable. Quand vous sortirez, il y en aura d'autres que vous découvrirez dans le monde extérieur. Mais il se trouve que j'ai eu un flash il y a 8 jours en disant... un de mes amis venait assister à la convention, qui ne vient jamais, monsieur Charles Moreau, pour ne pas le nommer, qui est actuellement au café ou au petit verre. Et il venait à la science-fiction, il venait à la convention, donc je me suis dit, tiens, ça serait une idée intéressante de l'accompagner. C'est notre doyen, il a 77 ans, merci pour lui. Mais pour venir à une convention de cette manière, comme ça, les mains dans les poches, non, pas question. Il faut arriver avec un ticket d'entrée. Donc, en 3 jours, j'ai concocté une brochure qui me permet de parler devant vous et qui est mon ticket d'entrée ou de sortie, puisqu'on va bientôt partir. Et ce ticket d'entrée, je l'ai sorti un peu, je dirais pas de ma poche ou d'une pochette surprise, mais enfin, je l'ai sorti de quelque chose, d'un endroit de l'espace-temps où personne n'avait posé son regard. Et franchement, je vous assure que ce que je vais dire n'a jamais été oui par des oreilles de science-fictionneux jusqu'à présent. Cela dit, je vous dois une excuse humble, parce que cette plaquette qui a été réalisée en 3 jours de vendredi dernier, samedi, disons à lundi, avant d'être passée chez l'imprimeur, et qui a été livrée jeudi, a été tirée à 50 exemplaires. Ça s'appelle Paris en 5839, songe. Je vous passe le sous-titre. Imprimé en 50 exemplaires, ouvrage distribué gratuitement à l'occasion de la 43e Convention nationale de science-fiction qui s'est tenue du 25 au 28, c'est aujourd'hui le 28 ?
Oui.
Août 2016 à Gradignan 33. Je crois que les coordonnées espace-temps sont bonnes. Nous sommes tous d'accord. Et il est avant 17h, donc on peut encore parler un peu. Bon, cet ouvrage devrait vous être remis gratuitement à tous, mais je crois qu'il y a 123 ou 128 inscrits, et je vois là imprimé à 50 exemplaires, et je n'en ai plus à vous distribuer, et je m'en excuse d'une manière la plus humble, et je m'aplatis devant vous. Mais il y aura une deuxième édition, étant donné le succès colossal de cette causerie. Et je vous remercie de propager la bonne parole. Pourquoi je n'ai pas 50 exemplaires à vous distribuer? Parce que d'abord, j'ai un éditeur qui s'appelle Fabrice Munzik, qui habite La Rochelle, il n'en a tiré que 50 et il s'en est gardé 15 pour lui. Sans rien m'avertir. Bon. Alors éventuellement, il faut lui réclamer les exemplaires manquants à La Rochelle, ou par mail, téléphone, internet, ou courrier. Le courrier marche aussi. Donc il reste encore des exemplaires quelque part dans le monde disponibles de cette plaquette légendaire. Voilà, il y a des moyens, de pallier au manque. Cela dit, j'en ai une devant vous quand même pour attester l'existence matérielle réellement imprimée, c'est-à-dire c'est pas Internet, c'est pas du virtuel, je vous parle de la réalité. Et j'en avais, en arrivant ici, il y a quelques jours, 35 exemplaires, 50 moins 15. Mais malheureusement, j'ai quelques connaissances ici, ils se sont précipités sur mon léger stock de 35 exemplaires. Et je ne sais pas comment, ils m'ont fait tourner deux ou trois fois sur moi-même. J'ai perdu mes repères et je n'avais plus d'exemplaires, sauf mon exemplaire que j'avais eu la précaution de garder pour vous le montrer. Donc les 34 autres exemplaires ont été distribués. Peut-être d'ailleurs certains d'entre vous ont des exemplaires. Voilà, oui, petit canaillou, vous m'avez bien eu. Il y a plus d'exemplaires dans cette salle que dans mes mains. Donc quel est le sujet de... Ça, c'était mon excuse. Maintenant, je vais en venir au fond du sujet. Nous devons identifier une date de naissance à la science-fiction française, éventuellement francophone, mais limitons le sujet à la France, ce qui est déjà un vaste pays. Et une région géographique et une date, donc des coordonnées spatio-temporelles. Et il se trouve que j'ai une réponse à la question posée... d'entrée de jeu, qui ne va pas de soi, parce que je vois dans la conférence de mon prédécesseur, Francis Saint-Martin, allez écouter sa conférence, il y a une heure de cela, elle est encore parfaitement audible. Il parle du docteur Frankenstein en 1818 et du docteur Ox en 1874. J'ai des preuves, hein, Francis Saint-Martin est absent, mais j'ai son aura qui exsude de ce papier et qui me remplit. Et qui me permet donc d'affirmer que la science-fiction française se trouve quelque part naître entre 1818 et 1874. C'est encore un peu vaste comme période. Et ce n'est pas non plus l'année 5839 qui est la date de naissance, bien sûr, je vous rassure tout de suite. Nous sommes dans des coordonnées spatio-temporelles ordinaires. Donc là, ça commence plutôt par 1800. Donc nous avons Paris en 5839, songe, nous sommes dans le rêve. Ou la science-fiction condamnée par un tribunal en 1822. Ah, donc 1822. Ça se situe bien entre 1818 et 1874. Et donc il se trouve qu'il existe, ce n'est pas un songe ni un rêve, il existe un texte qui s'appelle Paris en 5839. Qui serait condamné par un tribunal parisien en 1822. Est-ce que vous comprenez le rapport ? Non, il n'y a pas de rapport entre 5839 et 1822. Pourtant, l'édition a été établie, préfacée et commentée par Jean-Luc Buard. Il paraît que c'est moi, ça en fait preuve. J'ai payé mon inscription. Je suis dans la liste des inscrits à la convention. Et donc... Il se trouve que j'ai découvert, par la plus grande des hasards, ce hasard est expliqué dans la brochure, l'existence d'un texte que personne ne connaît, même pas Guy Coste et Joseph Alterac, encore moins Pierre Verseur, les encyclopédistes officiels de la science-fiction française, avant 1951. Après, il y a beaucoup plus d'encyclopédistes, mais avant 1951, il y a beaucoup moins d'encyclopédistes, parmi lesquels nos amis qui sont... Parti, Guy Coste, Joseph Alterac, qui ont déjà publié Les Terres Creuses en 2006. Et je leur ai demandé s'ils savaient ce qui se passait à Paris en 5839, ils n'en avaient aucune idée. La raison est qu'ils n'avaient pas encore vu la publication de cet ouvrage parce que. Comment ? Voilà, oui, bon, enfin bon, c'est. Vous savez. L'espace-temps est tout à fait malléable, donc enfin, si on inversait les choses, il connaîtrait parfaitement l'existence de cet ouvrage, mais il y a trois jours, il ne l'ignorait. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une nouvelle de science-fiction publiée dans un journal quotidien Figaro, Le Monde, Paris, Libération. En 1822, il n'y avait ni Figaro, ni Le Monde, ni Parisien Libéré, ni Libération en 1822. Qu'est-ce qu'il y avait comme quotidien à l'époque? Il y avait le Journal des Débats, le Constitutionnel, le Courrier Français ou le Miroir des Spectacles. Le Miroir des Spectacles est un quotidien qui ressemble beaucoup à Pariscope d'aujourd'hui, dans lequel il y avait les spectacles de Paris et de variétés de toutes sortes. Ça faisait 4 pages de format A4, à peu près de cette taille-là. On ouvrait et on lisait 4 pages de journal. Et un certain jour de l'année 1822, journal a publié Paris en 5839, Songe, exactement le 17 août 1822. Et qu'est-ce qu'on lit dans Paris en 5839? Il s'agit de... Le thème général, ce sont des touristes du futur, des touristes, des archéologues qui font du tourisme dans les ruines de Paris, en 5839. Et ils observent ce qui se passe, donc ce sont des tas de ruines, il y a le Palais Royal, il y a la rue de Richelieu, des lieux que l'on connaît, mais qui sont tout à fait en ruine, et dont il ne reste plus beaucoup de choses pour comprendre la fonction. Donc ils vont émettre des hypothèses plus ou moins erronées sur les ruines qu'ils vont voir pour essayer de comprendre la vie des Parisiens des années 1820, 1815, 1830. Et ils vont évidemment se tromper dans les grandes largeurs sur dans l'interprétation qu'ils vont donner des restes de ces ruines. Ils vont par exemple dire, je vous donne un exemple, il y en a plusieurs dans le texte, la rue de Richelieu, c'est la rue où le lieu où habitent les riches, parce que les riches habitent près du Palais Royal, qui est la demeure royale. Donc ce sont des interprétations qui font sens à l'époque. Nous sommes à l'époque de Louis XVIII, nous sommes sous la monarchie encore, la Restauration, après la Révolution. Et donc il est clair que l'auteur a... dans sa rédaction, n'avait pas une très bonne connaissance du futur et il est resté prisonnier du contexte où il écrivait, c'est-à-dire les années 1820. Et donc toutes les interprétations qui sont données des ersatz ou des ruines lamentables de la splendeur parisienne passée sont en général complètement erronées. Et ceci a une explication précise, c'est que cet auteur anonyme avait dans l'idée de critiquer le temps présent, c'est-à-dire la royauté. Autrement dit, cet auteur était un fieffé républicain, un opposant politique au régime en place, qui est celui de Louis XVIII, qui est un régime extrêmement sévère pour la presse, une presse qui vient à peine de naître au sortir de la Révolution. Avant 1789, il n'y avait pas une presse d'opposition, il y avait une seule presse, celle du roi. Après 1789, il y a eu une pluralité démocratique qui s'est exprimée dans une multitude de journaux, qui a été largement réprimée par Napoléon entre 1800 et 1815. Ensuite, ça s'est décoincé après la première et la seconde Restauration, et on a eu une relative liberté de la presse sous la Restauration et les régimes suivants, avec des hauts et des bas. Donc ce journal, Le Miroir des Spectacles, a profité de cette relative liberté pour envoyer des petites piques, pas forcément très sympathiques, mais souvent assez rigolotes, contre le régime en place. Disons que, à toute proportion gardée, Le Miroir des Spectacles est un peu l'équivalent de Charlie Hebdo ou Harakiri, ou toute cette presse non conformiste et satirique d'aujourd'hui, que l'on connaît, et qui s'exprimait déjà, ce sont des ancêtres, Le Miroir des Spectacles et les autres, il y a de nombreux journaux d'opposition qui avaient l'attitude d'être publiés à l'époque. Alors pour publier un journal d'opposition à l'époque, il ne fallait pas parler de matière politique, parce que dès qu'on est un quotidien, on paye, on passe à la caisse pour être un quotidien d'expression politique, que ce soit en faveur du régime ou contre le régime. Donc comme c'est des journaux fauchés, comme Charlie Hebdo et autres, avant les événements, il n'avait pas un sou vaillant et il fallait éviter de passer à la caisse pour publier un quotidien. Donc il ne se déclarait non pas politique, mais littéraire, culturel, artistique. Donc les critiques ne pouvaient pas s'exprimer de manière au grand jour, mais il fallait qu'elles empruntent la voie de la satire et toutes les formes d'expression que que ces modalités d'expression un peu, comment dire, détournées permettaient. Seulement, le gouvernement avait pour se protéger des tribunaux, comme aujourd'hui. Et quand il repérait dans la presse d'opposition des articles un petit peu hostiles ou légèrement moqueurs, on se moque légèrement du roi en place et du système, à ce moment-là, on envoyait les tribunaux faire le travail, le sale travail, c'est-à-dire qu'on assignait les journaux, on les assignait aux tribunaux et ils étaient coup de bâton, condamnation, amende, voire prison. C'est ce qui s'est passé pour cet article. Cet article n'a pas du tout plu. C'est pourtant une fantaisie tout à fait anodine, je dirais, aujourd'hui. On critique, on se moque légèrement du roi. Alors, j'expliquerai pourquoi. Quel est l'élément qui a énervé le pouvoir en place dans la narration, qui est une narration que l'on connaît depuis, qui a été rééditée, mais à l'époque, c'est à mon avis la première de la série. Et il y a quelque chose qui a déplu à la royauté ou au système en place. Et à ce moment-là, coup de bâton, papier bleu, vous êtes accusé d'offense à la personne royale. Effectivement, à un moment donné, ça fait 4 pages, hein, ce texte est très court, on compare le Louvre, à une ménagerie. Parce que dans l'étymologie du Louvre, c'est la louverie, c'est-à-dire le repère où l'on garde les animaux féroces, et c'est une étymologie exacte si on remonte au Moyen-Âge. Effectivement, le Louvre n'est pas une demeure royale, mais plutôt un endroit où on maintient les bêtes féroces. Alors l'assimilation du Louvre comme palais royal à une ménagerie de bêtes féroces a fait bondir les censeurs, puisqu'il s'agit d'une censure d'un journal, et hop, tribunal. Donc le tribunal, le tribunal a eu lieu donc de août à octobre. En octobre, ils ont été le journal, c'est le miroir des spectacles, a été traîné par la peau du cou devant les tribunaux. Et je publie un compte-rendu assez détaillé de cette séance hallucinante et surréaliste où on attaque devant les tribunaux officiels un texte, disons, de fantaisie scientifique, si l'on veut, ou disons, d'imagination futuriste. Et évidemment, à l'époque, le pouvoir judiciaire est en quelque sorte un contre-pouvoir au pouvoir politique. Ce système fonctionne assez bien, de pouvoir et de contre-pouvoir, et le jury et les débats vont dans le sens de l'acquittement. On ne va pas condamner un journal pour des propos aussi ridicules. Donc, acquittement le 9 octobre. Seulement, acharnement judiciaire, on connaît ça de nos jours, c'est des choses qui nous résonnent dans la tête. Et en décembre, appel du côté royal. On ne va pas laisser faire les choses, il faut aller jusqu'au bout de la condamnation, et on repasse devant les tribunaux. Et cette fois-ci, le journal Le Miroir et le texte Paris en 5839, songe, est lourdement condamné, officiellement et définitivement, par le tribunal de Paris. On a le nom des avocats d'un côté et de l'autre, l'avocat de l'accusation et celui de la défense, lourdement condamné en la personne du gérant du journal, responsable légal et juridique, qui écope de 3 mois de prison ferme et de 1000 francs or d'amende. En 1822, c'est une somme considérable pour la louverie comparée à une ménagerie. Ridicule, ça fait rire tout le monde. Personne, tout le monde est édifié, donc muet d'étonnement en entendant ces propos, mais on a pu condamner un texte de science-fiction quasiment anodin en 1822 sous les anciens rois, sous ce simple prétexte allusif. L'avocat de la défense, évidemment, tenter de balayer ces arguments ridicules. Il a été entendu en première instance, mais en appel, on connaît ça aujourd'hui, le mouvement de balancier a tout balancé, et le journal a été véritablement condamné, et ce n'est qu'un procès parmi d'autres. Ce journal n'a pas cessé d'être poursuivi pour irrévérences diverses. Et 6 mois après, le journal était définitivement interdit et n'existait plus. Donc, quelque part, il me semble que l'on peut attribuer... Alors, il faut lire les arguments que je n'ai pas le temps de développer en détail ici, mais c'est très court, ça fait 20 pages. Je pense que quelque chose de nouveau apparaît dans cette période. Je ne dis pas que le 17 août 1822 ou le 9 octobre 1822 ou le 7 décembre, le jour de l'appel 1822, il s'est passé quelque chose d'essentiellement, d'historique essentiellement. Mais je pense que dans la période globale, un peu floue avant et après, il s'est passé quelque chose d'intéressant qui nous a échappé à nous tous, qui relève, disons, de l'histoire de la presse, mais les historiens de la presse n'ont plus relevé cet épisode accessoire, éventuellement, qui est passé à la trappe. Après 1823 et les années suivantes, on n'a pas voulu se remémorer cet épisode peu glorieux de la science-fiction française, qui achoppe, quelque part. Mais il se passe quelque chose de nouveau à cette époque, dans les années 1820, où la démocratisation de la presse et de l'imprimé... Alors, il faut distinguer le régime du livre et le régime des journaux, qui sont deux régimes juridiques et intellectuels différents, matériels également. Ce qui peut être reproché à la presse, c'est son actualité et son immédiateté. C'est-à-dire que c'est le 17 août, le 18 août, tout le monde à Paris avait en main le miroir des spectacles et se foutait de la gueule du roi Louis XVIII qui était brocardé dans ce texte ridicule. Et donc ça, c'est pas supportable. On ne peut pas, le pouvoir en place, n'importe quel pouvoir, ne supporte pas le ridicule, aussi ridicule soit-il. Et on peut publier des âneries dans les livres sans que cela gêne beaucoup les censeurs, mais quand l'ânerie, disons, entre guillemets, est publiée dans la presse, c'est-à-dire dans un média de masse naissante, à grande diffusion, là, bâton. Parce que ces journaux-là se passent de la main à la main, c'est-à-dire qu'on ne les jette pas le lendemain, comme aujourd'hui un vulgaire 20 minutes ou un métro quelconque. On le garde, éventuellement on le relit par semestre ou trimestre, et on le garde dans des bibliothèques qui ne sont pas encore des bibliothèques municipales, mais les cabinets de lecture. Alors les cabinets de lecture, ce sont des endroits publics et privés où il faut s'abonner, par exemple un franc, pour accéder à l'ensemble de la production imprimée de l'époque, presse et livres, et pour cette somme modique, on peut aussi emprunter chez soi des imprimés pour les lire. On pouvait accéder aux journaux, aux livres, etc., d'une manière la plus libérale. Dans la mesure où on pouvait mettre la main sur un exemplaire, parce qu'il y avait de nombreux lecteurs qui voulaient tous avoir les mêmes journaux, c'est-à-dire les journaux d'opposition, le miroir des spectacles s'arrachait, et on ne le trouvait jamais sur le tourniquet, du moins le lendemain, il y avait un tour de lecture, on avait droit de le lire pendant une heure, et on devait le passer à son voisin. Donc il y a des témoignages très précis qui expliquent que ce journal, notamment, était extrêmement demandé dans les cabinets de lecture. Mais pourquoi ? Parce qu'il se foutait de la gueule du pouvoir en place. Donc système très, très, très peu original pour l'époque, mais pour nous banal, qui fait que, bâton, comme je l'ai dit précédemment. Donc, pour revenir à mon propos précis... une date de naissance éventuelle d'un phénomène en devenir, la science-fiction française, j'ai essayé de lever le voile de l'anonyme de ce texte. Et j'ai fini par, à l'attribuer à un romancier, à un écrivain de l'époque, un journaliste et un homme politique qui s'appelle Félix Baudin, qui n'est pas tout à fait inconnu des historiens de la science-fiction, puisqu'il va publier en 1834 un des premiers romans de science-fiction labellisés et référencés dans les encyclopédies à venir et même passées, Versin, qui s'appelle Le roman de l'avenir, donc, dans une postface, il réfléchit déjà à cette littérature qu'il appelle futuriste, qui sera la science-fiction. Et il conceptualise déjà l'écriture de l'avenir dans un texte en prose. Et c'est-à-dire qu'il va réfléchir sur les ancêtres, les antécédents, et il fait une généalogie jusqu'à lui, de ce type d'inspiration romanesque et dont il va être un des illustrateurs dans la chaîne de transmission jusqu'à nos jours. Donc Félix Baudin, député en 1830, est quelqu'un d'extrêmement important à l'époque, qui va devenir extrêmement important, qui est déjà très connu à l'époque comme étant un directeur littéraire d'une des collections qui a beaucoup de succès à l'époque, qui est l'équivalent, disons, des Que sais-je d'aujourd'hui. Il est le directeur littéraire des résumés historiques qui paraissent depuis 1821. Ce sont des résumés sur l'histoire des pays ou des régions françaises, des pays du monde entier. Mmh. Et ça s'arrache. Alexandre Dumas parle de la mode des résumés historiques. Tout le monde veut son résumé historique. Et pour rédiger cette collection, il distribue les projets de futurs volumes à tous ses amis du réseau républicain. C'est-à-dire que ce sont tous des opposants qui sont dans le collimateur du régime. Donc vous retrouvez dans ce réseau tout le monde, tous ceux qui seraient à condamner éventuellement par le régime s'ils pouvaient trouver des moyens de le condamner. Donc je démontre dans ce fascicule que l'anonyme qui se cache derrière le gérant et qui ne prend pas les coups, c'est un personnage important sur le plan éditorial, journalistique et bientôt politique, parce qu'il va... Alors il est un ami de Thiers, un futur président de la République, Thiers qui est déjà un personnage important, et il va donner son élan, son impulsion à Adolphe Thiers, dont il est l'ami. Donc Félix Baudin est une tête de réseau, il faut absolument le protéger, et il ne faut pas qu'il soit flétri par un tribunal. Donc le gérant va se ramasser les sanctions à sa place, et on va couvrir le véritable auteur de ce texte de cette manière. Ce qui explique son anonymat et éventuellement le fait que l'on n'ait pas ressorti cet épisode un peu sensible dans l'histoire politique de l'époque. Félix Baudin va mourir en 1837, donc il ne va pas pouvoir concrétiser les espoirs que l'on pouvait attendre, que l'on pouvait miser sur sa personne, espoirs littéraires ou politiques. Donc il meurt jeune. Et dans la postface du roman de l'avenir dont j'ai parlé, qui paraît en 1834, il avoue avoir été un journaliste anonyme du Miroir des spectacles. À quelle époque? Eh bien, ça a duré de 1821 à 1823, c'est pas compliqué, il faut feuilleter un petit peu ce journal, et de tout temps, il n'y a pas besoin, il va rééditer à titre d'échantillon un autre texte d'anticipation ou de science-fiction qui s'appelle Athènes en 1840. Ce texte date de 1822. Donc nous sommes dans la science-fiction. À l'époque, la Grèce faisait déjà parler d'elle comme aujourd'hui, pour plus ou moins les mêmes raisons. Elle était sous le joug ottoman. Le reste de l'Europe voulait libérer la Grèce en envoyant des contingents militaires, Lord Byron, etc. Et donc, en 1822, les choses ne sont pas encore résolues, mais le mouvement républicain de France, évidemment, est en faveur de la libération de la Grèce du joug ottoman, c'est-à-dire turc. Et donc, Athènes, en 1840, imagine que tout ça, tous ces conflits sont résolus dans le meilleur sens, c'est-à-dire que la Grèce est libérée, et dans cette foulée, la Grèce retrouve sa splendeur antique, sa splendeur intellectuelle, matérielle. La Grèce redevient florissante, et Athènes par la même occasion, d'où Athènes en 1840, où l'on retrouve l'aura antique 20 siècles plus tard. Donc ça, c'est de la science-fiction ou de l'anticipation. Et il se trouve que ce texte, Athènes en 1840, écrit en 1822, réédité en 1834, ce texte est paru dans le Miroir des spectacles le 14 août 1822, c'est-à-dire trois jours, francs, avant Paris en 5139, 17 août, CQFD, il ne faut pas chercher plus loin, nous avons le rédacteur de ce texte. Donc c'est pour ça que je ne dis pas que ce texte, que ce soit Paris, Athènes ou Paris dans les années futures, soit une date de naissance absolue, mais je pense qu'il s'est passé quelque chose d'inédit à cette époque en rapport avec la presse, non pas avec le livre, donc changement de paradigme. Je pense qu'il y a eu un changement radical que ce soit au niveau de la prise de conscience des écrivains, une prise de conscience éventuellement politique, ou du public, pour accepter la venue inévitable et fatale dans cette décennie de la science-fiction française moderne. On abandonne Rabelais, Mercier et tous leurs amis des siècles antérieurs, et nous rentrons véritablement avec ce type de production, je dis emblématique, dans l'ère moderne de la science-fiction que nous n'avons pas quittée depuis. Et je pense que maintenant, vous avez la réponse. Je vous remercie.